Fallait-il un énième plan de lutte antiterroriste à l'instar de celui qu'a présenté vendredi dernier le Premier ministre Édouard Philippe ? 40 mesures, dont 8 restent secrètes, classées secret défense, 32 autres sans grande nouveauté, à part peut-être la création d'un parquet national dédié à l'antiterrorisme, qui ne dépendra plus du parquet de Paris, et celle d'une cellule spécifique pour suivre à leur sortie de prison les détenus terroristes ou radicalisés. Des mesures qui viennent s'empiler à d'autres, ainsi qu'à tous les rapports d'experts, commissions d'enquête et travaux parlementaires, à tel point que les professionnels eux-mêmes aujourd'hui ont du mal à suivre entre une méthodologie brouillon, des acteurs dispersés, la politisation du débat et les effets de communication. Bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière, ancien juge antiterroriste. D'abord, votre avis sur l'agenda du gouvernement en matière de lutte antiterroriste. Est-ce que ce plan PACTE était attendu ? Est-ce qu'il est censé répondre à des inquiétudes, des lacunes pointé par les magistrats dont vous êtes, les professionnels de la justice, les services de renseignement?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que à l'aune du chemin parcouru depuis que l'on connaît la menace terroriste, c'est-à-dire quand même des années 80, et de ce qui nous attend, on est quand même sur une politique des petits pas. C'est vrai que ce plan arrive en complément d'un précédent plan qui était en mai 2016, qu'on a eu beaucoup d'annonces suite aux attentats terroristes. On a eu quand même une dizaine d'attaques terroristes assez fortes depuis quelques années. On a eu beaucoup de propositions, on a eu beaucoup de projets de loi, beaucoup de mesures annoncées. On a d'ailleurs dans cet agenda aussi la commission des lois qui vient de rendre un rapport sur les moyens et l'organisation de l'État pour faire face à la lutte antiterroriste. 3 jours avant le plan du Premier ministre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc la difficulté, c'est de faire le tri et de comprendre un petit peu quelle est la véritable orientation du gouvernement.
Ce rapport de la commission des lois, d'ailleurs, c'est un peu surprenant, le calendrier, donc 3 jours avant l'annonce de PACTE. Est-ce que, de ce que vous savez, est-ce que ces élus ont coopéré avec le gouvernement pour la rédaction du PACTE? Est-ce que ce travail parlementaire entre en concurrence? On comprend pas très bien.
Oui, on a un peu l'impression, en effet, que chacun travaille dans son coin, c'est-à-dire qu'il y a des commissions d'enquête. Il y a eu beaucoup de commissions d'enquête. Il y en a eu une, d'ailleurs, très importante, qui avait été faite par Monsieur Pietrasanta et Monsieur Fenech après les attentats de 2015, qui avait été d'ailleurs un peu ignoré par le gouvernement. Donc c'est vrai que quand vous parlez de coopération, collaboration entre ce qui se fait au niveau du Sénat, de l'Assemblée ou du gouvernement, ce n'est pas évident. On a plutôt l'impression d'une concurrence. Mais bon, peu importe, j'allais dire qu'ils n'ont pas d'ailleurs la même optique. Les propositions de la commission des lois sont peut-être plus précises sur certains aspects et le plan présenté par le Premier ministre semble plus général et plus global. Il a l'air d'embrasser davantage, j'allais dire, toutes les problématiques.
Bon, le second va peut-être se nourrir du premier.
Tout à fait, exactement. Alors on a quand même un calendrier qui se dessine puisque on a une clause de rendez-vous en 2020. La dernière loi qui a été votée, qui est un peu, je fais rapidement, la transposition de l'état d'urgence dans la loi SILT prévoit une clause de rendez-vous en 2020. Donc, il est certain qu'en tout cas, pour le gouvernement, il a cette clause de rendez-vous qui l'oblige, d'une certaine façon, à rendre des comptes et à prendre les mesures qui s'imposent.
Donc, un plan d'action, des mesures dans un plan d'action, 40 mesures dont 8 sont classées secret défense. On ne va pas parler des 32 autres, puisque beaucoup sont cosmétiques, beaucoup s'accordent à le dire, mais peut-être certaines en particulier, et notamment cette cellule spécifique pour suivre les détenus terroristes à leur sortie de prison. Édouard Philippe a donné des chiffres, 450 détenus terroristes ou radicalisés, je reprends ces mots, devraient être libérés d'ici fin 2019. On parle de qui ? Est-ce que ce sont des personnes condamnées pour des affaires criminelles ou délictuelles, des crimes ou des délits, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ? Enfin, qui sont ces détenus dits terroristes ou radicalisés ?
Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que les chiffres, selon les commissions d'enquête, selon les rapports, parce que maintenant les rapports fleurissent quand même, sont un peu différents. Donc On n'a pas, enfin moi j'avais pas du tout ces chiffres, j'avais un calendrier de sortie qui évaluait entre 15 et 20 personnes, voire 30 personnes qui pouvaient sortir entre 2018 et 2022, donc moins que ce que vous venez d'annoncer. Et ça
c'est pose... Edouard Philippe qui l'a fait, c'est pas moi.
Non mais ça pose tout de suite une vraie problématique, qui est la problématique à mon avis de fond du traitement contre le terrorisme, c'est qui les terroristes. C'est-à-dire que selon la définition que certains donnent, entre le terroriste qui a vraiment, j'allais dire, commis un attentat ou qui a projeté de commettre un attentat, qui est qualifié comme tel par la procédure, et ce qu'on englobe de façon beaucoup plus large comme radicalisé, il y a une différence qui nous oblige quand même à un moment donné, ou qui devrait nous obliger à un moment donné, à poser dans le débat public une définition beaucoup plus claire pour pouvoir définir aussi nos outils. Parce qu'en fait, on pense la lutte antiterroriste à partir des outils, je pense qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait penser la lutte antiterroriste à partir, j'allais dire, des objectifs et des définitions de ce qu'est la menace. Or, là, il faut quand même reconnaître qu'il y a plusieurs façons d'observer ou d'identifier la menace. C'est pour ça que les chiffres qui parfois semblent extrêmement alarmistes ne correspondent pas toujours à ce que nous, magistrats, nous avons en procédure, qui sont beaucoup plus, j'allais dire, précis.
Parmi ces 450 détenus, aucun a priori n'a été condamné pour attentat. Abdelkader Mera, par exemple, il n'est pas prêt de sortir.
Alors, condamné pour attentat, attention, il faut faire attention. La majorité des personnes qui sont estampillées terroristes dans nos prisons ou qui sont en cours de procédure judiciaire sont souvent pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire, et bien heureusement, ils n'ont pas commis d'attentat. Ils sont par contre sur le chemin de les commettre, c'est-à-dire qu'ils sont dans un processus de radicalisation. Ils font partie parfois, seuls ou à plusieurs, d'une équipe pour commettre des attentats, et on les interpelle, on les arrête dans cette, j'allais dire, qualification qu'on appelle association de malfaiteurs.
Et d'ailleurs, ils sont emprisonnés sous quel régime? Ils sont à l'isolement
Alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Il faut reconnaître que depuis 4-5 ans, la pénitentiaire, qui d'ailleurs revient de façon récurrente dans tous les plans et dans tous les débats, est le point faible de notre système judiciaire, puisque je parle sur le plan judiciaire. Il y a eu beaucoup d'expérimentations parce que on a pris le train extrêmement en retard, c'est-à-dire qu'on est dans des injonctions contradictoires. À la fois, on nous demande d'agir dans l'urgence, et à la fois, on nous dit que c'est une menace sur le long terme, et à la fois, on se rend compte que cette menace n'est pas nouvelle. Donc, dans tout cela, il faut que la pénitentiaire s'adapte avec les problématiques de la pénitentiaire que l'on connaît, à savoir quand même des établissements vieillots, des équipements qui sont parfois, j'allais dire, sous-estimés, des problèmes d'effectifs, une surpopulation. Donc le terrorisme vient se greffer sur un état des lieux qui est déjà compliqué pour la pénitentiaire.
Vous parlez d'expérimentation prise parfois à la propre initiative des directeurs de prison, comme celui de Fresnes, qui fin 2014 regroupait les détenus qui faisaient du prosélytisme dans une aile de l'établissement comme un quartier dédié. En fait, les directeurs de prison doivent gérer le quotidien un peu comme ils le peuvent.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, et c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui reprocher, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé ce phénomène qui était pourtant connu, on l'a pas vu venir et on a été dans la réaction plus que dans l'anticipation. Du coup, on a fait des expérimentations, on continue à en faire. Et je crois que si on devait souligner, parce qu'il faut quand même voir ce qui est positif toujours, le point positif, ça a été la création, et qui a été très difficile à faire admettre, en tout cas nous on était complètement pour, il y a deux, trois ans, de ce qu'on appelle le renseignement pénitentiaire. Et ce renseignement pénitentiaire, et on le voit dans le plan actuel du Premier ministre, rentre peu à peu, dans le cercle du renseignement, gagne ses galons. Ça n'a pas du tout été évident. Il a fallu former des personnels, leur donner un peu une doctrine, des moyens. On n'est pas encore à maturité, mais les choses progressent.
C'est quoi? C'est ce bureau central du renseignement pénitentiaire qui a été créé récemment?
Qui a été créé sous Jean-Jacques Urvoas. Hein, c'est lui qui a donné cette impulsion suite, si vous voulez, à la loi sur le renseignement. Et on s'est aperçu qu'en effet, il y avait un maillot faible, qui était très faible, qui était l'absence de suivi en détention de personnes qui à la fois pouvaient être dangereuses dans la dissimulation, dans le prosélytisme, et surtout la nouveauté depuis 2-3 ans, c'est que le personnel pénitentiaire est devenu, à proprement parler, une cible elle-même pour les pour l'organisation terroriste.
Mais les gardiens de prison, ils disent qu'ils sont pas formés. Ils l'ont dit lors de leur grève, leur grande grève, il y a quelques mois.
C'est-à-dire qu'il suffit pas de décréter un bureau de renseignement pénitentiaire pour avoir derrière une doctrine, des moyens, des hommes. Donc, c'est ce que je vous disais. On n'est pas encore à maturité. C'est sans doute le point faible sur lequel le gouvernement travaille et travaille de façon, j'allais dire positive, puisqu'on voit que dans le plan actuel, le bureau pénitentiaire est totalement intégré dans cette vision d'une chaîne et de suivi pour le suivi des détenus. Car n'oublions pas le suivi des détenus, on pense toujours à la prison, mais il y a aussi des personnes qui sont dans des procédures judiciaires, qui sont sous contrôle judiciaire, donc qui sont aussi à l'extérieur de la prison. Et là, ça oblige aussi nos pratique a évolué, puisque les services d'insertion et de suivi, de probation, ce qu'on appelle les SPIP, doivent également évoluer dans la manière de surveiller ou en tout cas de contrôler ces détenus.
Le plus important pour beaucoup, et on en vient à cette cellule annoncée vendredi, penser la sortie.
Exactement.
Qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce que ce sera cette cellule spécifique pour suivre les détenus terroristes ou radicalisés à leur sortie de prison? Ça ressemblera à quoi tout simplement?
Alors, pour vous dire la vérité, le plan est assez vague hein, quand même. Hein. On est sur des annonces aujourd'hui qui font quelques lignes. On n'a pas le détail de cette cellule. Ce qui est intéressant, c'est de la créer déjà. Après, on verra ce que ça donne. Ça montre franchement qu'on avait un problème de suivi. Et cette cellule devrait être rattachée, si j'ai bien compris, à l'UCLAT, c'est-à-dire ce service de coordination déjà de la lutte antiterroriste, qui a cette expérimentation, cette expérience sur les profils, puisque on parle de profil quand même.
On va parler de profilage.
Exactement.
Aussi. Hein,
on va parler aussi de profilage. On voit ce terme arriver comme ça dans son plan. On aura peut-être l'occasion aussi d'en reparler. Et c'est vrai que je ne sais pas encore quels seront les contours, les moyens donnés à cette cellule, mais l'idée d'avoir un suivi, parce que on avait une rupture dans la chaîne très clairement, c'est-à-dire que entre les services de renseignement et les sorties de prison, on s'est aperçu avec les commissions d'enquête qu'il n'y avait pas obligatoirement de fluidité dans le renseignement. Très clairement, nous avions des détenus qui pouvaient sortir sans que les services de renseignement soient informés de leur sortie. Ça, c'est fini. Manifestement, on a avancé là-dessus et c'est très positif.
Que les services de renseignement soient renseignés, ça paraît le minimum, mais que les maires le soient, par exemple. Ah. Quelle position vous prenez? Alors, je ne sais pas si ça concerne aussi les détenus. J'imagine que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, les maires qui exigent aujourd'hui, qui demandent d'avoir accès aux informations concernant leurs fichiers S, informations qui sont détenues aujourd'hui par les préfectures. On sait que les relations entre maire et préfet ne sont pas toujours au beau fixe. On ne sait pas tellement selon quelle modalité on peut mettre ça en place, mais surtout, ni à quoi ça servirait que les maires soient informés de ça.
Alors, trois points pour vous répondre rapidement. Un, c'est pas dans le projet, c'est pas dans les annonces du Premier ministre. Deux, c'est dans celle de la commission d'enquête qui a eu lieu qui a rendu son rapport 3 jours avant celui du Premier ministre. Donc là-dessus, il n'y a pas identité de vue, très clairement. Il ne semble pas que le gouvernement aille là-dessus, même si la commission d'enquête le suggère. Deuxièmement, cette idée que les maires sont au courant. Je crois qu'il va falloir être très attentif à ne pas mélanger tous les genres. Le renseignement appartient quand même en priorité aux services régaliens qui sont là pour lutter contre la lutte contre le terrorisme. Les maires ne sont pas dans ce rôle-là.
Ils sont officiers de police judiciaire.
Oui, mais pas de lutte contre la criminalité organisée. Ils sont sur la sécurité publique. Que ensuite, ponctuellement, et je pense que c'est ce qui se fait de façon intelligente, les maires soient informés que dans leur entourage, ils aient des personnes dangereuses, je pense que ça existe déjà. Que structurellement ou institutionnellement, les maires aient accès à des fichiers, et ça pose la problématique du fichier, hein, qui est un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'on a créé beaucoup de fichiers. On a celui du FSPRT, qui est le fichier des personnes radicalisées, terroristes, qui est énorme. On compte 20 000 personnes là-dedans. On sait très bien que ce fichier n'est pas opératoire ou opérationnel parce qu'il y a un peu à manger et à boire dans ce fichier. Donner ce fichier aux maires, par exemple, serait une folie.
Mais d'autant que les maires peuvent déjà aujourd'hui faire une déclaration au parquet sur la base de l'article 40.
Tout à fait.
S'ils constatent une infraction, mais alors si on va au-delà, ça veut dire qu'on émet des soupçons et là on change de philosophie.
Oui, tout à fait. Et on revient à ce que je vous disais au départ. qu'est-ce qu'un terroriste, qu'est-ce qu'un radicalisé? C'est-à-dire que comment on alimente ces fichiers, quels sont les critères d'alimentation de ces fichiers? C'est exactement la même problématique qui revient sur les fichiers S, sur lesquels tout le monde dit mais ces fichiers S, il faut faire des mesures, j'allais dire, soit d'expulsion, soit, vous savez, les politiques proposent ça régulièrement. Le problème, c'est que les fichiers S sont aussi des fichiers de travail sur lesquels on ne peut pas dire parce que vous êtes fichier S, vous êtes un futur terroriste.
Et des fichiers S que des agents de la DGSI peuvent par exemple établir sur une simple impression. Quoi. Ça peut rester très subjectif.
Exactement. Donc attention de ne pas de confusion et, sur ces outils.
Et donc peut-être qu'un des outils peut être le profilage, ce vilain mot qui nous vient des États-Unis et qui a été utilisé par Édouard Philippe vendredi. C'est-à-dire qu'est-ce que ce serait qu'une cellule de profilage des auteurs d'attaques terroristes et d'identification des facteurs de passage à l'acte? Est-ce que ça veut dire qu'on peut établir le profil type du futur terroriste comme on le fait aux États-Unis des tueurs en série? Ça, c'est un peu étrange comme...
Je vous avoue que je suis un peu gênée aussi par cette notion de profilage. Pourquoi? Pas parce que je trouve inintéressant qu'on cherche à comprendre quels sont, j'allais dire, nos profils de criminels. Parce que la manière dont en France on fait les choses me semble manquer de base scientifique, d'analyse criminelle, et qu'on a toujours cette tendance à vouloir prendre chez les autres des systèmes qui ne correspondent pas à nos façons de travailler et à notre culture. Je ne suis pas sûre, d'autant plus, qu'il y ait des profils types de terroristes. On revient toujours à la même question, et qui n'a pas fait l'objet d'un grand débat public, et c'est bien le problème, et c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'un terroriste en France? Puisqu'on voit très bien que dans le vocabulaire utilisé dans tous les débats, on parle de façon différente de djihadistes, de islamisme radical, de personnes violentes. Voilà, on voit qu'on a une terminologie qui nous permet pas aujourd'hui d'avoir une vision claire. Donc, puisqu'on n'a pas de vision claire, qu'est-ce qu'on va profiler? Et n'oublions jamais que la spécificité quand même du terrorisme, alors je prends cette expression qui vaut ce qu'elle vaut, islamiste, est basée de façon majoritaire sur la dissimulation. Donc, les vrais terroristes, entre guillemets, les terroristes peut-être les plus chevronnés plutôt que les vrais, sont déjà dans une stratégie de dissimulation qui font que ce que l'on pourrait identifier comme un profil type ne correspond pas.
Ils ont anticipé ce profilage bien pour sûr. Les nuls. Insérer un peu de criminologie dans la lutte antiterroriste, néanmoins, est-ce que ça vous paraît pertinent, Béatrice Bougère?
Ça me paraît
Bougère
absolument essentiel. Là-dessus, on a pris un retard fou, mais encore une fois, pas n'importe comment, pas en faisant n'importe quoi. Et c'est là où je crois que c'est aussi un deuxième point faible, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps mis de côté, à la différence des pays anglo-saxons ou des pays nordiques, le travail qu'on devait faire avec les universitaires sur ce que pouvait être la criminologie. Voilà. Mais après, encore, ça mérite un débat à part entière. On n'a pas le temps maintenant, mais c'est un sujet fondamental.
Un mot sur... alors, voilà pour la surveillance et le repérage, entre guillemets. Mais alors, sur le désendoctrinement, il paraît qu'il faut dire désengagement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
qui est
proposé?
Pareil, je vous réponds la même chose. De quoi parle-t-on? C'est-à-dire que entre le spectre de ceux qui diront qu'on est dans une vision sectaire, puisque ça a été même dans le rapport de la commission d'enquête. Ils disent, mettons le salafisme dans la liste de Miviludes, qui, vous savez, cette organisation Miviludes qui lutte contre les effets sectaires. Entre donc ceux qui pensent que le salafisme doit être estampillé comme une secte et ceux qui sont sur une vision de radicalité de la violence dans les banlieues. Voilà, on a un spectre extrêmement large. De quoi parle-t-on? Tant qu'on ne sera pas clair sur la manière d'appréhender le phénomène, qui est d'ailleurs, et je le dis tout de suite, peut-être plus un outil d'action qu'une identité. Être terroriste, c'est peut-être d'abord une manière d'agir plus qu'un profil.
Un centre de désendoctrinement avait été mis en place à Pontourny, en Indre-et-Loire, qui a fini par fermer il y a un an. Donc, gros échec de ce centre.
Échec.
C'était sur la base du volontariat. Oui. Pour conclure, dans ces programmes, est-ce qu'on prend le temps d'évaluer les politiques à plus long terme?
Non, mais ça, c'est un problème français. C'est pas propre au terrorisme. Bon, alors là-dessus, il y a eu des annonces du président qui dit on veut évaluer les politiques publiques. Très bien. Ouais. On attend. Voilà. Mmh. Je pense qu'en effet, c'est ça le problème. C'est qu'on fait des plans qui se succèdent, des expérimentations qui se succèdent, et on prend peu le temps de les évaluer.
Béatrice Brugère, vous restez avec nous pendant le journal. Nous aurons encore jusqu'à 8h30 pour évoquer d'autres mesures contenues dans ce pacte plan d'action antiterroriste, notamment la création d'un parquet national antiterroriste qui ne sera plus dépendant du parquet de Paris. Ça crée des débats sur un futur parquet spécial isolé et coupé du monde.